partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Je suis très heureux aujourd'hui dans l'émission Partager le savoir de recevoir Pablo Poblet, qui est un poète franco-chilien et une personnalité extrêmement agréable de cette Amérique latine que nous apprécions infiniment en France. Et cela remonte jusqu'à Jean Cassou et bien d'autres personnages qui étaient l'ami d'Octavio Paz. Alors aujourd'hui, si bien modestement, je continue ce dialogue France-Amérique latine, en recevant un homme qui est tout à fait intéressant, auteur, poète, essentiellement poète, nous aimons les poètes bien sûr sur Canal Académie, et qui appartient à une famille d'artistes. Le père peintre, la mère journaliste d'art, la sœur actrice, le frère aîné architecte et ancien attaché culturel à l'ambassade du Chili à Buenos Aires, et un deuxième frère aussi peintre qui est résident à Londres. Donc on voit une famille d'artistes, un homme profondément tourné vers la France, vers la francophilie, vers la francophonie, et auteur de quelques recueils de poèmes, je vais citer ceux que j'ai sous la main, et qui sont d'ailleurs très beaux. Je cite Pablo Poblet, « Poème d'amour à une disparue », aux éditions Indigo. Je cite aussi « Voyage », toujours de Pablo Poblet, « Voyage vers la terre de l'utopie la plus lointaine », aux éditions de l'Harmattan, dans la collection Poètes des cinq continents, et aussi vraiment un ouvrage de grande qualité publié à l'Harmattan qui s'appelle « Baiser de pierre craintive » avec des poèmes de Pablo Poblet et des photographies de Sandy Johnson. Voilà, mon cher Pablo Poblet, nous sommes très heureux de vous accueillir ici sur Canal Académie. Et j'aimerais tout de même, ma première question, on en avait parlé ensemble, porte sur comment devient-on francophone quand on est né au Chili?
Bon, d'abord, je vous remercie, Axel, votre invitation à Canal Académie. La question est intéressante, mais je pourrais dire qu'on va la diviser en deux parties.
Bien sûr.
La première, c'est l'histoire, la tradition francophone d'Amérique du Sud australe, surtout Uruguay, Argentine, Chili, qui commence, je pense, à partir du 19e siècle, avec l'émigration française de toute cette population vasque française, Pyrénées orientales, qui part vers l'Argentine, vers l'Uruguay et surtout vers le Chili.
Ah, au Chili, vous avez aussi une très grosse immigration qui vient du Pays basque.
Énorme.
Ah
énorme.
Oui, ça je ne savais pas ça, ce point. Je savais en Argentine.
Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas assez, mais qui sont très intéressantes.
C'est bien dommage.
Dans la relation de la France et l'Amérique du Sud australe, et surtout le Chili. Ce n'est pas un hasard qu'on a eu plusieurs présidents d'origine française au Chili.
Pinochet.
Malheureusement. Pour la France. Et Bachelet et d'autres. Non. Donc, il y a une émigration qui arrive en 19e siècle, 1844, commence à partir le Chili. Il nous amène le cépage des bons vins qui maintenant font concurrence à la mère patrie du vin.
Heureuse concurrence.
J'espère.
Oui, heureuse concurrence. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre d'immigrants venus de France entre 1844 et, mettons, 1920 ou 1930. Est-ce qu'on peut l'évaluer à peu près ?
Sont plusieurs milliers.
Plusieurs milliers.
Plusieurs milliers. Actuellement, d'après un recensement récent, seulement à la métropole de Santiago, ils ont recensé environ 10 000 émigrants nouveaux à Santiago, des Français.
Donc récent, ça c'est récent, très récent.
Récent.
Ah oui,
récent,
c'est important.
Voilà.
10 000 personnes. Donc la francophonie,
voilà, la francophonie c'est...
n'est pas si mauvaise que ça. Donc,
pas du tout. Non, pas du tout.
Non, parce que vous savez,
tout le contraire.
Vous savez, mon cher Pablo, c'est que on n'arrête pas d'entendre ici et là, le français se meurt sur cette terre. Moi, je dis, j'essaie avec d'autres comme vous de dire le contraire, et vous nous apportez des faits que 10 000 jeunes Français, Françaises qui s'installent au Chili dit dans les dernières années, c'est quand même pas négligeable.
C'est pas négligeable du tout. Ils apportent et aussi ils reçoivent, comme on sait, l'immigration partout. Quand on va dans un autre pays, on apporte, c'est ça, et on reçoit. La synergie culturelle, c'est très important, surtout dans la francophonie. Alors, bon, voilà, ces migrations-là sèment une culture. Le Chili, au début du XXe siècle, comme d'autres capitales, comme Santiago, Buenos Aires et d'autres capitales, Mexique aussi, ils sont complètement imprégnés par la culture française. Donc, ils font venir des architectes français pour construire des quartiers, des jardins, des parcs, etc. etc. Non. Donc, Eiffel et son équipe, ils ont construit plusieurs ouvrages au Chili.
Ah, au Chili aussi, Eiffel.
Voilà, voilà, ouais, par exemple. La gare qui s'appelle la Estación Central de Santiago, la gare des trains, a été construite par Eiffel. Ensuite, des ponts dans quelques villes au sud du Chili, etc. Donc, il y a des ouvrages divers qui sont représentatifs de cette époque, très liés à Paris. On voulait imiter Paris, dans quelque part, toutes ces villes et toutes ces métropoles d'Amérique du Sud. Par la suite, ils ont influencé, évidemment, l'intellectualité, l'intelligentsia de chaque pays, qui a été et qui continue à l'être très francophone.
Et puis, si je me souviens bien, vous me contredisez si je me trompe, je crois que Pablo Neruda et Jean Cassou avaient des relations, je pense.
Oui,
au
niveau des poètes, c'est très important la relation, évidemment, avec Paris, dans toute l'Amérique du Sud, les écrivains, romanciers et poètes, et particulièrement du Chili. Nous avons, Neruda, il a été étudiant des langues françaises à l'université au Chili, par la suite ambassadeur à Paris. Mais lui-même...
De quelle année à quelle année, c'est à peu près? Il a été ambassadeur à Paris aussi...
En début des années 70.
Début des années 70, très
voilà.
Bien.
Par la suite, lui, il ne devient pas un poète francophone. C'est-à-dire, pour moi, un poète francophone, c'est parce qu'il écrit en français.
Lui, non. Hein?
Non. Je pense que peut-être il a fait quelques petites choses.
Il a été traduit.
Oui, toujours traduit, mais il n'a pas laissé un ouvrage en français. Au contraire du grand poète Vincent Huidobro, grand poète chilien, lui, il était aussi francophone. Et je pense que c'est les premiers poètes au Chili, véritablement francophones, car il a laissé plusieurs ouvrages en français.
De quelle année à quelle année il
début du XXe siècle. Il a été ami de tout le mouvement d'art moderne, de Picasso, de Juan Gris, de Apollinaire. Il a été ami et ils ont travaillé beaucoup ensemble. Donc Huidobro, c'est très important pour moi en tant que représentant chilien, poète, en même temps francophone.
Ah, ça, c'est important ce que vous nous dites. Et voilà. Ça, du point de vue artistique, du point de vue esthétique, il se situe dans quelle veine?
Bon, là, il y a une petite discussion, comme existe toujours dans les domaines de la poésie et de l'art, n'est-ce pas? Lui, il a créé un mouvement qui s'appelait le créationnisme, qui est beaucoup d'autres historiens et poètes, ils disent que c'est un surréalisme avec un autre titre.
Ah, d'accord, hein? Donc une sorte de surréalisme.
Voilà, c'est lié au surréalisme. Mais lui, il a développé toute une théorie du créationnisme. Par la suite, il a fait un petit peu vague dans d'autres pays, comme l'Espagne, les créationnismes.
De quel écrivain se sentait-il le plus proche? De quel écrivain français se sentait-il le plus proche? Ce précurseur
Je pense qu'il était très proche, comme beaucoup d'autres générations, et moi-même aussi, de Lautréamont, du comte de Lautréamont, et surtout l'ouvrage des Chants du Mal d'Aurore. Et je vais rajouter, pour répondre à votre question, Axel, Lautréamont, mais Isidore Ducasse, il est né à Montevideo, au Uruguay.
Il ne faut pas l'oublier, ça.
Donc, il y a trois grands poètes des langues modernes françaises qui sont nés en Uruguay. Isidore Ducasse, Laforgue, Supervielle.
Et Supervielle, bien sûr.
À Montevideo, il y a un grand monolithe, c'est un bateau de l'époque du XIXe siècle en fer forgé, qui est à l'intérieur d'une fontaine, qui n'est pas trop loin de l'Alliance française, d'après mon souvenir. Peut-être ça a changé par la suite. Mais moi-même, à l'époque, j'ai réalisé une véritable pérégrination à Montevideo et j'ai lu mes poèmes devant les monolithes en hommage à Lautréamont surtout, écrivain qui m'a énormément influencé dans ma jeunesse.
Donc, votre parcours commence justement avec, vous diriez, la lecture, la découverte de Lautréamont ou de comment votre parcours franco-chilien commence-t-il?
Oui, mon parcours personnel, d'abord, il m'arrive une culture, au niveau de l'art, une culture française à travers mes parents et surtout...
Vos parents parlaient le français?
À travers mon père.
Votre père parlait le français?
Il parlait français, pas couramment, mais il lisait les français plus qu'il les parlait. Il lisait parfaitement couramment les français. D'ailleurs, il avait beaucoup d'ouvrages en français. Mais pour les parler, c'était un peu plus difficile.
Il avait quelques livres cultes en français, par exemple?
Oui, il y avait des ouvrages même. Il y avait plusieurs ouvrages en français. Non, des philosophes et aussi des Jean Cassou.
Jean Cassou, j'ai connu.
Ouais. J'ai vu ce livre, Jean Cassou, tout petit, parce que ça faisait partie de la bibliothèque de mon père, qui était peintre et ex-directeur de l'école des Beaux-Arts de Santiago aussi. Donc, à travers mes grands-parents, il a reçu une culture francophile. Par la suite, lui, il a transmis cette culture à nous, ses enfants. Voilà. Donc,
vos frères et sœurs parlent le français aussi?
Ma sœur, elle parle français. Mon frère, non, il ne parle pas français, mon frère. Mais ma sœur, oui. Elle a été très liée, en tant qu'actrice, elle a été très liée à l'Institut chilien-français à l'époque de la dictature. Ils ont fait un travail énorme. Bon. Si vous voulez, il m'arrive d'abord ça, cette littérature, cette culture, ces essais, ces d'art, etc., d'esthétique. Donc, on a quelque chose déjà qui s'emprègne un petit peu.
Vos premiers livres français qui vous ont passionné, c'était lesquels? Il y avait donc Lautréamont. Quels étaient les autres auteurs qui vraiment... On fait vibrer quelque chose en vous, on vous a ouvert des portes, des fenêtres, vous ont permis de vous tourner vers un imaginaire intéressant.
Oui, ben je pense que ce sont les poètes du 19e siècle, tous ces poètes que tout le monde connaît maintenant, à partir de Baudelaire, etc. Ensuite, des ouvrages de Diderot, de Voltaire, de Rousseau, enfin bref, tous
les philosophes
des Lumières, ça, non voilà, ce sont plusieurs ouvrages qui ont conformé les structures, la base d'une francophonie à venir, car je ne suis pas arrivé à Paris en tant que francophone, en tant que quelqu'un qui parle le français.
Vous ne parliez pas le français.
Non, je ne parlais pas français. J'étais très mauvais élève de mes cours de français, chose que j'ai regretté par la suite. J'avais un
comme
niveau...
quoi, la leçon que vous devez donner aux uns aux autres, quand vous avez la possibilité d'apprendre le français ou une autre langue, n'hésitez surtout pas à apprendre le français ou une autre langue
Absolument, mon cher Axel. Chers étudiants, faites attention.
Nous sommes des pédagogues, ne l'oublions pas.
Absolument. Non, je suis devenu, si vous voulez, francophone ici en France. J'ai choisi ces
pays. Vous êtes arrivé ici à quel âge?
Je suis arrivé à 23 ans.
23 ans, oui, c'est bel âge et encore fort jeune.
Absolument.
Et là, déjà, il y avait la dictature dans votre pays.
C'est-à-dire que j'appartiens à une génération des jeunes artistes et des jeunes poètes qui ont parté à faire notre vie ailleurs à cause justement du système dictatorial des
parce Pinochet. Que M. Pinochet, pour juste nous rafraîchir la mémoire des auditeurs, est arrivé au pouvoir en quelle année?
En septembre 73.
Et vous avez quitté en quelle année?
J'ai quitté en janvier 79.
Ah oui, donc quand même, vous avez vécu pendant 6 ans
absolument.
Et qu'est-ce que vous retenez de cette période très douloureuse, je présume? Quels sont des moments forts, personnels que vous retenez sur cette dictature? Et qu'est-ce qui vous a permis de traverser cette dictature si difficile?
Les putsch militaires a été un trauma pour toute la société chilienne, et même d'ailleurs. Mais surtout, ça a touché évidemment les Chiliens. Ça a été une dictature féroce, criminelle. Donc, j'ai commencé à grandir dans ces systèmes d'horreur. Ça a été très douloureux et pour ma jeunesse, pour la jeunesse de milliers d'autres artistes, étudiants, etc. Alors, comme les choses ne sont pas jamais figées d'un côté, soit positif ou négatif,
oui.
il existe toujours les yin et les yang
dans
la vie. Donc, ces périodes, quand même, a été un moteur de créativité, énormément de créativité. J'étais avec, parmi d'autres poètes, on a fondé la société des jeunes écrivains chiliens, pour se défendre de cette dictature qui nous interdisait la vente de livres et poésie, nous interdisait les réunions des poètes dans un lieu public. Une réunion de plus de 3 personnes, il fallait la déclarer au commissariat les plus proches, etc. On n'avait pas le droit de faire des photocopies à l'époque. C'est incroyable de penser maintenant que nous avons tous des imprimants chez nous et on peut imprimer tout ce qu'on veut. À l'époque, une photocopie, il fallait la déclarer au commissariat, n'est-ce pas? Enfin, c'était la censure. Alors, la question de la censure était très intéressante, je pense, car la question à laquelle je me suis confronté, c'était comment pouvoir continuer à parler, à faire ma poésie et la déclamer en public sans me cacher, sans faire une poésie clandestine. Donc, comment pouvoir parler devant le public sans être interdit?
Ah oui,
sans risquer ma vie, mon intégrité physique. Non. Donc l'équation était difficile parce qu'il y avait une vraie censure de partout. Donc c'est à ce moment-là que j'ai démarré une poétique que je l'ai appelée à l'époque poème théâtre, et par la suite est devenue psychopoésie. Car le plus important...
Que vous enseignez d'ailleurs.
Oui, j'enseignais, j'ai représenté beaucoup dans les universités. Car, tant donné que les concepts en lui-même étaient interdits, je suis allé chercher la forme poétique pour véhiculer un message, un sentiment, etc., etc. C'était la forme la plus importante, plutôt que les concepts en lui-même.
Donc vous faisiez un acte de résistance.
Absolument.
Et en cela, vous rejoignez Jean Cassou, qui, incarcéré par la milice en France pendant 1 an, a composé dans son cachot, sans papier, sans crayon, dans sa tête, les fameux 33 sonnets composés au secret. Donc vous voyez comme Absolument. Ces poètes, comme Jean Cassou, hispanisant bien entendu, et comme d'autres, de Pablo Neruda, à bien d'autres poètes latino-américains, dont vous et vos amis, il y a cette espèce de force de la résistance, au sens le plus noble de l'esprit, qui ne veut pas s'éteindre, qui ne veut pas mourir, et là, vous nous offrez de magnifiques poèmes, il faut bien le dire.
Bon, ben, je pense que... poésie, c'est égal à vérité.
Sur ces mots, nous allons nous arrêter avant de revenir à ces poésies, ces poèmes vérité. À tout de suite.
Canal Academy vous propose L'auteur caché, une rubrique ludique pour tester vos connaissances en littérature française. 10 indices, 10 lignes d'extrait en moins de 10 minutes pour découvrir de quel auteur il s'agit. Vous êtes prêts ? À vous de jouer avec L'auteur caché, une rubrique de l'émission À voix lue à télécharger dès maintenant sur Canal Academy.
Je reçois aujourd'hui Pablo Poblet et nous avons la deuxième partie de notre entretien. Et je me permets de rappeler que Pablo Poblet est un poète franco-chilien qui a écrit des poèmes d'amour, esthétiquement parlant, très intéressants, il faut s'en imprégner. Et je rappelle ce recueil de Pablo Poblet qui s'appelle « Poèmes d'amour à une disparue ». Et pour nos amis hispaniques et du continent latino-américain, « Poemas de amor a una desaparecida ». Et je me permets, juste avant d'offrir la parole à notre ami Pablo Poblet, de réciter ce poème qui est extrêmement beau. Et voici le titre « Ce qui est à moi et ce qui est le plus à moi ».« Ce qui est à moi et ce qui est le plus à moi n'est qu'un ancien purgatoire de ce que toi et moi nous aurions vécu au milieu de tant d'amour mort. Pardonne-moi depuis ta cellule tellurique, depuis ton insupportable non-présence, pardonne-moi, bel enfant du sinistre, pour n'avoir pas trouvé le lit naturel, le lit définitif de ton repos. » Comment est né ce poème ? Est-ce que vous en avez un petit peu le souvenir, Pablo, de la naissance de ce poème qui s'appelle en espagnol ? Si en français il s'intitule « Ce qui est à moi et ce qui est le plus à moi », voyez le français, et l'espagnol « Lo mío y lo más mío ». Très intéressant comme traduction, l'aller-retour, etc. Alors, comment il est né, ce poème ?
Le livre en lui-même, il est né d'après un court voyage que je réalisais à Santiago du Chili. Avant de rentrer en France, j'ai visité un ancien ami photographe à son bureau. Et je me suis trouvé avec une table assez grande, avec environ 700 photos en noir et blanc des disparus de l'époque de la dictature, dans les années 70. Et parmi toutes ces photographies en noir et blanc, assez déteintes et vétustes, il y avait un regard, et j'ai pris la photo, et c'était une jeune fille adolescente qui m'a frappé énormément, ces photos, car elle faisait partie des disparus de la dictature chilienne dans les années 70. Donc, immédiatement est venu à ma pensée, à mon cœur, si je pourrais dire, et la question pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est une disparue, cette adolescente ? C'est comme ça qu'il est né ce livre à Paris. Par la suite, je l'ai écrit à Paris.
Donc ce livre qui s'intitule « Poème d'amour à une disparue ». Et voilà, vous savez maintenant qui est cette disparue ?
Non. Mon ami photographe m'a fait cadeau à l'époque de la photo, de cette photo. Par la suite, la photo a disparu aussi.
Donc nous avons le soldat inconnu, voilà. Et vous avez le poème d'amour à une disparue. C'est quand même c'est très beau, c'est un hommage qui fait penser un peu. D'ailleurs, en vous lisant, je suis pas encore, je le reconnais, je suis pas un expert de votre poésie, mais disons, vous me faites par moments, je vous apparente à quelqu'un qui, j'espère, je vais pas vous décevoir, qui s'appelle Robert Desnos. Donc, c'est un poète tout à fait émouvant et dont la fin aussi est... Vous savez qu'il est mort des suites d'une maladie terrible, le typhus, dans un camp de concentration. Donc, quelque chose de très émouvant, si vous voulez. Il pensait à la femme qu'il aimait. Donc, il y a quelque chose... C'est très beau, ça. Et d'ailleurs, vous, le poète, vous allez nous lire quelque chose dans un instant, mais vous, le poète, vous avez récemment, si ma mémoire est exacte, ou si mes renseignements sont exacts, écrit un poème sur Oradour-sur-Glane.
Effectivement, j'ai écrit aussi à travers d'une petite photographie en noir et blanc d'une ruine d'Oradour-sur-Glane que j'ai trouvée dans un journal, un magazine à Paris, en 2004. Que c'était la célébration, la triste célébration du 60e anniversaire de ces sinistres.
De l'assassinat par les nazis d'un village, voilà. Des habitants d'un village.
Donc, je me suis dit aussi, encore une fois, c'est pas possible de passer dans la vie sans avoir laissé un petit témoignage personnel, à ma façon, avec mon regard, sur cette tragédie qui nous dépasse toute imagination. Les choses
et c'est d'autant plus émouvant ce que vous avez fait que c'est la première fois, à ma connaissance, que je sais qu'il y a eu des poèmes écrits sur Oradour-sur-Glane. Je n'ai jamais lu, pour ma part, de poètes français ou d'autres pays écrivant en français ou même dans une autre langue qui s'intéressaient aux morts d'Oradour-sur-Glane. Donc il y a quelque chose de très émouvant. C'est ce geste, je trouve, ce geste ou cette geste, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de notre ami, c'est-à-dire vous, franco-chilien, qui à la fois avait vécu à un âge, il faut rappeler, vous aviez, quand la dictature a commencé, 17 ans, vous êtes parti à 23 ans, à un âge où là, il y a dans la conscience, dans le corps, il y a des choses quand même terribles qui s'inscrivent. Et là, vous nous rendez hommage aujourd'hui, c'est-à-dire à l'âge que vous avez, des années plus tard, vous rendez hommage à certains de nos morts, victimes aussi de la cruauté, de la barbarie. C'est très beau ça, Pablo Poblete.
C'est une dénonciation, si je pourrais dire, en poésie de cet acte horrible. Et pour rapport à cet écrit d'Oradour-sur-Glane, qui s'appelle « Nouveau poème d'amour à Oradour-sur-Glane », j'ai rencontré par hasard à Paris, dans la rue Campagne Première, j'ai rencontré Paul. Peut-être il va écouter cette émission. Paul, c'est un des trois enfants rescapés d'Oradour-sur-Glane. Il y avait une librairie à la rue Campagne Première qui avait mis mon livre « Oradour-sur-Glane » dans la vitrine. En passant par hasard, Paul, avec sa femme, il était attiré par les titres de ses livres, mais c'était son histoire. Donc, il m'a rencontré, on a parlé. Par la suite, ça a été un moment très intense. Et je lui ai offert mon livre, et il est parti avec.
Vous savez, ce dont nous parlons en ce moment ensemble, c'est le pouvoir, enfin, ce terme n'est pas au sens du pouvoir politique, mais le pouvoir inouï, extrême de la poésie, et qui fait d'ailleurs peur aux politiques. Vous voyez, si Pinochet ne voulait pas que des poètes se retrouvent, si pendant la guerre...
Oui, oui,
et on a toujours peur, l'interdit. Souvenez-vous de ce qu'écrivait Octavio Paz dans L'Arc et la Lyre ou bien d'autres, etc. C'est la poésie a un pouvoir fascinant. Et vous l'exprimez aujourd'hui un peu partout. Hein. Quand on regarde votre curriculum vitae, c'est extraordinaire. Les maisons de la culture où vous allez, les conférences que vous donnez, etc. Alors, je crois que vous vouliez nous lire quelque chose, là.
Bah, je voudrais vous offrir...
pour nos auditeurs.
Oui, pour les éditeurs, j'espère.
600 000 en France et 400 000 à l'étranger.
C'est magnifique, magnifique. Et... bravo, félicitations. Voilà. Bon, j'espère que ça va les faire plaisir. Mais je voudrais offrir cet extrait de mon livre « Fraxerval », que c'est un livre vaste, non, et de 365 pages.
Vous l'intitulez comment, votre livre ?«
Fraxerval ».«
Fraxerval ».
Voilà, et que j'écris depuis 5 ans.
Oui,
c'est
oui.
Un livre de poésie que j'écris depuis 5 ans et je suis en train d'arriver à la fin.
Il n'est pas publié encore.
Pas encore.
Donc c'est un manuscrit.
C'est une sorte d'escalade à l'Everest que j'ai entamée. Ah. Je suis à la page 338. Il me reste encore pour arriver à 365, c'est-à-dire un cycle, un an, une page de poésie par jour, symboliquement parlant.
Vous êtes un homme qui avait beaucoup d'oxygène.
Je croyais. Maintenant, je ne sais pas.
Vous savez, le doute est une bonne chose. Il ne faut jamais être trop content de soi.
Absolument. Hein. Vous avez raison, Axel. Donc voilà, et un extrait, c'est une page de mon livre Fraxerval. Chante, langue verbale, dans le cœur errant, qui construisent avenir des beautés et d'études d'un passage fébrile qui nous amène vers un fleuve de créativité. Chante, langue verbale, dans le sous-sol des désespérances vaincues par l'espoir des pensées qui rayonnent à la surface d'une planète humaine qui accueille ton écrit. Chante, langue verbale, avec toutes tes mélodies ancestrales et novatrices, quand ton peuple endure condamnation de séjours anticulturel, sans trahir ta flamme. Chante, langue verbale, avec tes sentiments de pierre craintive, dans cette marche naturelle, tendre qui cherche un autre horizon des civilisations sans barbarie. Chante, langue verbale, la vie et ses merveilles qui sont nées de ton regard d'amour pour semer l'amour et pour construire l'amour malgré ton injuste solitude.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quels sont vos projets pour les 6 mois qui viennent ou l'année qui vient ou qui va se terminer?
Prochainement, j'ai une exposition de mes pastels à l'huile et des présentations de ma...
Vous peignez aussi. Vous peignez, vous êtes...
Voilà, et donc j'ai une présentation de mes pastels, de mon graphisme et de ma poésie en Hongrie, au musée de Nicolas Schaeffer, invité par sa veuve merveilleuse, la merveilleuse Éléonore Schaeffer. Et ensuite, j'ai une présentation à la Maison de la Poésie des 50 ans aux Yvelines en novembre.
Oui.
Il y aura une projection des vidéo-poésies que je travaille, ensuite une exposition aussi. Et par la suite, je viens de finir mon livre « Poème d'amour à une petite fille universelle de l'Amazonie ». C'est un long poème qui parle de la situation scandaleuse, tragique et honteuse pour l'humanité entière du peuple ancestral de l'Amazonie.
Donc vous êtes un homme tourné vers l'essentiel de l'humanité, ça c'est... J'avais ressenti cela en vous rencontrant la première fois, cette espèce de vous coller vos semelles, je ne sais pas si je trouve les bons mots, mais vous coller vos semelles sur les belles traces de l'humanité. Et vous savez, on a beaucoup plus besoin finalement d'aujourd'hui de poètes qui vraiment s'intéressent au sort du monde que de financiers qui l'exploitent, ce monde. Hein. Je crois qu'on peut dire ça, même si on a besoin des deux dans l'absolu.
Absolument.
Mais les poètes, quand même, cautérisent bien des blessures, hein, il faut le reconnaître. Donc, écoutez, je trouve ça tout à fait impressionnant de nous offrir autant de poètes. Alors, on va peut-être terminer. Veuillez nous lire, avant de nous séparer, le poème de vos choix ou celui qui vraiment vous plaît, enfin je sais qu'ils vous plaisent tous, mais l'un parmi d'autres, et ça c'est quand même très, très important.
Bon, je vais vous offrir un petit extrait de mon livre « Baiser » de Pierre Craintive, qui est un poème dédié à une femme en pierre.
Très bien, très bien.
À une femme en pierre et à toutes les femmes de pierre. qui sont à Versailles, au Jardin de Luxembourg, etc., qui sont merveilleuses et que je suis amoureux depuis la première fois de ma vie.
Je pense que vous êtes un amateur de Rodin aussi. Hein.
Absolument. Avant de lire ces petits extraits, je remercie Daniel Rignot, rédacteur pôle de la promotion du français au ministère des Affaires étrangères et européennes, par les renseignements sur la francophonie en Amérique du Sud qu'il a généreusement m'offert, m'envoyé. Voilà, merci Monsieur Rignot. Je vais vous lire donc un petit extrait pris au milieu du poème. Depuis quand m'attends-tu, apparition, tu t'appelles? Retour oppressant, inéluctable, de tes amours naufragés, de tes petites choses inachevées, parle-moi de tes tissus perdus, de tes bijoux pétrifiés, de ton baiser solidifié. Parle-moi de tes sentiments, reflets des âmes humaines. Parle-moi de nos gémissements divers, de la porosité de notre peau rotative face à l'intemporalité de ta chevelure et son parfum occidental, figé comme naturel, fille de la pluie, de la neige, du soleil et d'autres températures qui parcourent tes formes comme une fausse anatomie au plaisir d'un festin défendu. Oppressant, tu gères l'extension, les paysages accidentés, les ondulations qui découpent l'horizon comme un premier regard simulé, plein d'anxiété voyageuse. J'accepte ce qui reste de ta main.
C'est magnifique. Dites-moi, mais qu'est-ce qui, Pablo, qu'est-ce qui vous a attiré à ce point vers la langue française ?
L'amour.
Comme un petit peu comme Amin Maalouf, parce que Amin Maalouf nous a dit un jour : je ne peux plus écrire de lettres d'amour, à part. J'utilise pour mes lettres d'amour le français exclusivement, et non plus la langue arabe. Donc, j'ai pas l'air d'être triomphant en disant cela, c'est son choix, moi je le respecte. Comme personnellement, j'aime beaucoup la langue espagnole, vous le savez, j'ai le plus grand amour pour la langue espagnole, qui est une très belle langue, mais. Il y a ce passage dans le cerveau de l'un à l'autre, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant.
C'est fascinant, c'est un défi en permanence. La langue française, pour moi, c'est un défi à chaque seconde. C'est un univers infini, en tout cas pour moi, personnellement, et toujours un territoire d'inconnu. C'est mon moteur.
Par rapport à la langue espagnole, est-ce que vous délaissez la langue espagnole?
Je délaisse la langue espagnole. Je délaisse la langue espagnole depuis un moment déjà, depuis quelques années.
Et ça vous fait pas un peu mal au cœur?
Non, ça m'a interrogé plutôt. Mais j'ai choisi la ville et les pays où je voulais vivre ma vie. Pas celle qui a été imposée depuis ma naissance. J'ai choisi aussi la langue, malgré mon accent et malgré tout ça. J'ai choisi une autre langue, un autre amour. Car les amours, il faut lutter pour un amour, il faut se batailler pour un amour.
Oui,
voilà.
Oui. Non, mais c'est tout ce que vous dites, c'est tout à fait magnifique. Nous vous remercions. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Vous êtes des nôtres tout en étant un autre aussi, et ce qui est merveilleux. Et vous savez que ma chronique s'appelle « Les merveilleux francophiles ». Et bien, vous êtes un de ces merveilleux francophiles.
Merci.
Et donc, grâce à vous, la langue française rayonne encore et pour longtemps dans cette Amérique latine. Merci beaucoup, Pablo.
Merci à vous, Axel Mongeau.
À bientôt. Merci.